Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. L'Iran a rejeté ce matin comme sans fondement les accusations américaines rendant la République islamique responsable des attaques perpétrées hier contre deux pétroliers dans la région du Golfe, où les fortes tensions font désormais craindre un embrasement.
L'Organisation mondiale de la santé doit décider aujourd'hui s'il faut déclarer l'urgence mondiale.
Oui, en cause l'épidémie d'Ebola qui sévit depuis près de 10 mois en République démocratique du Congo, qui s'est étendue depuis à l'Ouganda voisine.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, les ministres européens des finances se sont entendus ce matin sur les grandes lignes d'un budget de la zone euro.
Un projet phare du président français, toutefois revu considérablement à la baisse. Et puis Emmanuel Macron est attendu, lui, à Malte cet après-midi pour un mini-sommet des pays du sud de l'UE consacré aux questions migratoires et climatiques. De son côté, Agnès Buzyn bat le rappel depuis ce matin au ministère de la Santé pour lancer sa mission nationale et surtout tenter de désamorcer la crise dans les services d'urgence en grève depuis près de 3 mois. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. À nous. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Notre quête d'authenticité, il revient dans son nouvel essai No Fake sur cette vague nostalgique qui a gagné le monde et aussi la France, qui se retrouve dans nos bistrots, dans nos tables en fornica, etc. Et il va nous parler de ce besoin de vrai, d'authenticité que nous avons, tenter de comprendre aussi ce que ça dit de nous.
Merci et à tout à l'heure. Parce que près de 20 millions de barils de produits pétroliers y voguent chaque jour. On savait déjà combien le détroit d'Ormuz rendait les navires citernes vulnérables aux actes de piraterie comme aux attaques terroristes, sans même parler des risques de collision pouvant conduire à des marées noires désastreuses. Mais hier, l'épaisse colonne de fumée noire s'élevant d'un navire norvégien sur une mer d'huile aura surtout démontré combien le principal point de trafic de pétrole au monde, reliant le golfe Persique à la mer d'Oman, est aujourd'hui sensible aux troubles géopolitiques. Hier, un mois seulement après le sabotage de 4 navires, 2 pétroliers ont à nouveau été attaqués. Et évidemment, toute la question à présent est de savoir qui aujourd'hui aurait le plus intérêt à se lancer dans cette nouvelle forme de bataille navale aux portes du Golfe. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors il y a un mois, lors du premier incident dans le détroit d'Ormuz, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, alliés de Washington, avaient pointé du doigt la République islamique d'Iran. Hier, les États-Unis ont à nouveau accusé Téhéran, preuve à l'appui, cette fois-ci du moins. L'armée américaine a-t-elle diffusé dans la soirée une vidéo que l'on qualifiera de nébuleuse et montrant selon elle une patrouille du corps d'élite de l'armée iranienne en train de retirer une mini ventouse sur une paroi de l'un des 2 tankers attaqués. De quoi attester sinon de la culpabilité de l'Iran, au minimum donc de la détermination des États-Unis à convaincre la communauté internationale de la responsabilité de la République islamique.
Oui, dans ce climat de tension extrême et de désinformation permanente, plusieurs hypothèses sont crédibles. On entend beaucoup depuis hier que les Iraniens n'auraient aucun intérêt à envenimer la situation, surtout en s'en prenant à un navire japonais. Au moment où le Premier ministre Shinzo Abe, en visite à Téhéran, joue les médiateurs, il a remis au guide suprême de la révolution islamique un message de Donald Trump. Mais la réalité est plus complexe, d'abord parce que l'Iran, durement frappé par le retour des sanctions économiques occidentales, qui provoquent un fort mécontentement dans la population, ne peut pas rester les bras croisés en attendant des jours meilleurs. Jouer sur le réflexe nationaliste à la faveur d'un incident de ce genre permet de canaliser la colère des Iraniens. Il faut aussi prendre en compte les luttes d'influence et de clans au sein même du pouvoir à Téhéran qui pourraient expliquer de telles initiatives. Ce qui est certain, c'est que seul un État peut monter une opération de ce genre, qu'il s'agisse de mines ou de drones. Mais un pays de la région hostile à l'Iran pourrait aussi avoir un intérêt à faire porter le chapeau à la République islamique. On pense par exemple à l'Arabie Saoudite ou à ses alliés. Il n'y a donc pour l'instant que des hypothèses.
Alors à présent que les États-Unis et l'Iran se toisent donc de plus en plus dangereusement, un dérapage pourrait-il dégénérer en conflit armé régional ou dit autrement, Bertrand, embraser tout le Moyen-Orient ?
Eh bien, l'éventualité d'un conflit régional n'est pas du tout à écarter. Les crispations diplomatiques entre l'Iran et une Arabie Saoudite soutenue envers et contre tout par Washington sur fond de guerre au Yémen ne demandent qu'à dégénérer. Cela dit, les conditions d'un dérapage gravissime ne sont pas ou pas encore réunies, car le détroit d'Ormuz reste ouvert et sous haute surveillance, y compris de la part des marines occidentales, même si l'Iran s'est à nouveau érigé ces dernières heures comme seul garant de la sécurité dans cette zone. Le trafic des pétroliers pétrolier y reste possible. Les navires marchands qui y passent contribuent eux aussi, par les renseignements qu'ils fournissent aux marines nationales, à rendre les attaques plus difficiles. Seul un blocage du détroit serait une vraie déclaration de guerre. Les Iraniens, pour l'instant, ne l'envisagent pas. Le président Rouhani se contente d'affirmer ce matin que les États-Unis représentent une grave menace à la stabilité régionale et mondiale.
Merci Bertrand Galichet. Alors, outre la question de savoir jusqu'à quel point cette situation de crise régionale peut devenir paroxystique, l'autre interrogation porte sur les menaces s'agissant de l'approvisionnement mondial en pétrole. Après avoir déjà flambé hier, les cours de l'or noir ont continué de grimper ce matin. Faut-il en déduire que les tensions géopolitiques liées à cette situation dans le Golfe pourraient avoir des répercussions à la pompe en France? Stephen Goyer a posé la question à Philippe Chalmin, professeur à Paris Dauphine et fondateur du cercle Cyclope sur les marchés mondiaux.
Une déstabilisation véritable, c'est-à-dire un conflit dans lequel l'Iran mettrait en œuvre les moyens pour empêcher le passage des navires, ce qui probablement impliquerait une réaction américaine, et donc un véritable conflit dans la zone, à ce moment-là, je dirais qu'il n'y a pas de limite. $100 le baril, peut-être plus. Et donc, concrètement, pour l'automobiliste à la pompe, ce serait de l'essence ou du diesel au-dessus de 2 euros le litre. Ça, sans aucun problème. Mais on n'en est pas là. Nous vivons avec une véritable épée de Damoclès. Et soyons honnêtes, hier, la ficelle qui tient l'épée de Damoclès s'est quand même assez nettement affaiblie.
L'Organisation mondiale de la santé a convoqué aujourd'hui une réunion d'urgence après que le virus Ebola a réapparu en Ouganda, pays qui a déjà connu des épidémies par le passé, mais pas de nouveaux cas depuis 2012. Or, cette semaine, le virus a fait ses deux premières victimes, un enfant de 5 ans et sa grand-mère qui avait assisté avec d'autres membres de la famille aux obsèques d'un proche en RDC voisine, la République démocratique du Congo, où là-bas, l'épidémie a fait plus de 1300 morts ces derniers mois. Alors, l'agence spécialisée des Nations Unies va-t-elle déclarer l'urgence mondiale, comme elle l'avait déjà fait, d'ailleurs c'était en 2014, toujours pour l'épidémie d'Ebola. À l'époque, le virus avait causé la mort de plus de 11 000 personnes dans 3 pays d'Afrique de l'Ouest, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Alors en attendant que l'OMS se prononce, eh bien l'Ouganda est d'ores et déjà en état d'alerte, mais le principal défi pour les autorités, eh bien c'est la porosité des 870 km de frontières communes avec la RDC, et ce malgré les contrôles sanitaires mis en place aux postes frontières. Les explication d'Alain Eppelboin, médecin anthropologue. Il a couvert plusieurs épidémies d'Ebola comme consultant pour l'OMS. Il répond à Valérie Crovin.
Vous avez souvent des deux côtés de la frontière des populations qui parlent les mêmes langues, qui font le commerce, qui se marient. Ça a été le cas sur l'énorme épidémie d'Afrique de l'Ouest, où l'épidémie a éclaté, c'était des zones très proches de frontières, avec des stratégies de gens qui sont partis vers les capitales de la Guinée, d'autres vers la Sierra Leone, d'autres vers le Libéria. Et là, dans le cas présent, on n'est pas dans une épidémie pour l'instant en Ouganda, on est dans des cas qui sont importés, avec des contacts qui ont été apparemment bien identifiés selon le communiqué du ministère de la Santé congolais, des contacts qui ont été bien identifiés et qui sont l'objet d'un contrôle et d'un suivi. Là, les gens ont été interceptés par les services de contrôle de l'épidémie d'une façon apparemment assez remarquable. Inversement, pourquoi ça n'a pas démarré, pourquoi ça n'a pas flambé, vu les dizaines de milliers de gens qui traversent tous les jours la frontière, c'est tout à fait étonnant.
Alors que les discussions ont repris au Soudan hier pour fixer le cadre d'une transition démocratique durable et pacifique, les généraux au pouvoir ont finalement admis avoir ordonné début juin la dispersion sanglante d'un sit-in de manifestants. C'est la première fois que les militaires reconnaissent ainsi leur responsabilité dans cette répression qui a fait des dizaines de morts. Quand Hong Kong panse ses plaies avant de repartir au combat au surlendemain d'une journée de violence sans précédent dans l'ancienne colonie britannique, et alors que le calme est revenu dans le centre de la ville, un appel pour une nouvelle grande marche a été lancée pour ce dimanche, suivie d'un appel à la grève générale pour lundi, toujours dans le but d'empêcher la loi sur l'extradition d'être votée. Une audience se tient depuis ce matin devant le tribunal londonien de Westminster pour examiner la demande d'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, demande déposée par les États-Unis qui reprochent à l'Australien d'avoir mis en danger certaines de leurs sources et l'accuse d'espionnage. L'audience devrait surtout avoir trait en réalité à des éléments de procédure avec le dépôt des preuves à l'appui de cette demande d'extradition. L'audience d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis aurait été fixée à février 2020. Au Royaume-Uni, où le parti au pouvoir se cherche un nouveau dirigeant après la démission de Theresa May, l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, a largement remporté hier le premier vote des députés conservateurs. Et c'est ainsi que certains candidats à la direction du parti Tory envisageraient à présent d'unir leurs forces pour faire barrage au trublion de la vie politique britannique. Les 7 candidats encore en lice seront soumis à un deuxième tour mardi prochain. En Suisse, la moitié du pays est appelée à faire grève aujourd'hui. Plus exactement, toutes les femmes sont appelées à manifester vêtues de mauve afin de réclamer l'égalité salariale. Parade de poussettes, concert de sifflets, pause déjeuner prolongée, pique-nique géant. Les manifestations prévues sont multiples, mais l'ampleur du mouvement reste encore incertaine tant les débrayages sont rares dans la petite confédération helvétique. Après que les ministres européens des Finances se sont entendus ce matin sur les grandes lignes d'un budget de la zone euro, et bien que ce projet phare du président Emmanuel Macron ait été revu considérablement à la baisse, le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, n'a lui pas caché son émotion en jugeant cet accord historique. Ça n'a jamais été possible jusqu'à présent et cela va dans le bon sens, est-il encore réjoui. Alors pour être tout à fait exact, les ministres des Finances de l'Eurozone ont approuvé ce que l'on pourrait davantage qualifier de premier embryon de budget commun. De quoi s'agit-il exactement et est-ce véritablement historique? Ce qui laisserait entendre que depuis la création de cette zone monétaire il y a 20 ans, eh bien ses membres n'auraient au fond jamais réussi à s'entendre. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazet.
Le principe de ce budget, c'est de permettre aux 19 pays de la zone euro de rapprocher leurs économies parce que la création de la monnaie unique n'a pas permis à elle seule de le faire. En fin de compte, le budget de la zone euro ne portera même pas ce nom puisqu'il s'appelle désormais instrument budgétaire pour la convergence et la compétitivité et c'est vraiment son objectif, la mise en place de réformes dans la structure du budget des États, ce qui doit permettre de commencer enfin à coordonner les politiques économiques. Pour le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, c'est une mini-révolution, une véritable percée.
C'est une avancée majeure. Nous avons désormais un budget de la zone euro qui doit nous permettre de faire converger des économies dans la zone euro qui divergent encore trop aujourd'hui. Donc c'est une belle journée pour l'Europe, c'est une belle journée pour la zone euro, et même si on a eu peu de sommeil, je crois que le plus important, c'est que l'Europe avance.
Il reste encore du chemin à accomplir. Le mode de financement n'a par exemple pas encore été établi. L'idée d'une taxe sur les transactions financières qui pourrait alimenter directement ce budget n'est pas encore gravée dans le marbre. Le montant lui-même dépendra de celui du budget de l'UE actuellement en négociation. Pour l'instant, on évoque 17 milliards d'euros répartis sur 7 ans, ce qui est bien en deçà des ambitions initiales.
Alors, Pierre Benazet disait, cela fait 6 mois que les ministres des Finances de la zone euro débattaient ainsi de la question d'un budget qui continue manifestement quand même à diviser les pays du Nord, adeptes de la rigueur budgétaire, et puis ceux du Sud, partisans d'une plus grande solidarité. Or, c'est très précisément parce qu'il semble parfois difficile, en effet, aux États membres de réussir à accorder leur violon qu'un sommet des 7 pays du Sud de l'UE a été créé, un format davantage propice, a priori, à la coordination. Alors le 6e du genre se tiendra aujourd'hui à Malte. Malte, où nous vous retrouvons, Isabelle Labéry, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
L'objectif, Isabelle, de ce sommet est donc d'accroître la coordination, notamment sur les questions migratoires et climatiques, mais même réduite à 7, eh bien, la discussion s'annonce compliquée, Isabelle.
Oui, effectivement, avoir comme patrimoine commun une histoire et une culture méditerranéenne, partager le littoral de cette mer frontière qui nous sépare de l'Afrique, tout cela crée des points de convergence, certes, mais qui ne suffisent pas à créer un bloc homogène. 3 sujets de discussion, pour ne prendre que les plus importants, divisent ces 7 pays frères, Portugal, Espagne, France, Italie, Grèce, Malte et Chypre. La question du budget, puisque vous en parliez, il en sera aussi question cet après-midi. Tout le monde n'est pas prêt à augmenter sa participation pour la prochaine période. Sur le climat, Paris devra persuader ses partenaires, en effet, de s'engager sur l'objectif neutralité carbone en 2050. Or, seuls l'Espagne et le Portugal ont pour l'instant adhéré à ce projet. Mais le vrai point d'achoppement, c'est la question migratoire, qui était déjà au cœur des discussions lors des 5 précédentes rencontres de ce format, car la majorité des pays du sud de l'Union sont des pays de première ligne. Malte, pays hôte, est dans cette situation. Le ministre des Affaires étrangères l'a rappelé récemment. Avec ses 460 000 habitants, l'île accueille le 2e plus grand nombre de réfugiés par habitant. Avec le sentiment de devoir forcer la main des pays membres quand des migrants débarquent, obtenir un engagement à accueillir quelques dizaines de personnes pour alléger la pression. Et chaque fois, une épreuve de force. Il faut plus de solidarité, disent les Maltais. C'est aussi le message que la France portera auprès de l'Italie, qui depuis l'an dernier refuse de laisser accoster les bateaux ayant sauvé des migrants. Dans les locaux du gouvernement, l'un des plus beaux bâtiments baroques de La Valette, les échanges promettent d'être directs, voire tendus, avec le président du Conseil italien, Giuseppe Conte. La France souhaite agir, alors que les discussions sont bloquées par Rome, agir notamment avant la reprise des débarquements à la faveur de l'été.
Merci Isabelle Labéry en direct de La Valette ainsi qu'à Frédéric Quérault pour les moyens techniques. Alors on l'a bien compris, à une semaine d'un sommet européen crucial pour le choix des nouveaux dirigeants de l'UE, Emmanuel Macron cherchera cet après-midi des alliés du sud de l'Europe et le chef de l'État y veillera certainement d'autant plus qu'il vient de perdre un levier d'action au Parlement européen après la décision hier de Nathalie Loiseau, chef de file des députés macronistes, de renoncer à briguer la présidence du groupe centriste, bien que fragilisé par un certain nombre de maladresses durant la campagne électorale. Nathalie Loiseau semblait pourtant avoir toutes les chances de prendre la tête de ce nouveau groupe baptisé Renouveler l'Europe, le troisième en nombre d'élus derrière les conservateurs et les sociaux-démocrates. Mais c'était sans compter les répliques d'une controverse provoquée par ses propos peu amènes, voire offensants sur plusieurs personnalités du Parlement censées être ses alliés. Après 3 mois de grève dans les services d'urgence, Agnès Buzyn recevait ce matin au ministère de la Santé une cinquantaine de personnalités de toutes les parties prenantes au dossier, dont les 5 principaux syndicats des hôpitaux publics, les 3 grandes fédérations d'établissements, de même que l'ordre des médecins et celui des infirmiers. Alors la semaine dernière, la ministre avait tenté de désamorcer la crise en promettant une stratégie d'ensemble incluant une mission nationale ainsi que des primes pour les personnels et des crédits pour les travaux nécessaires, des mesures aussitôt jugées insuffisantes par les professionnels concernés qui réclament davantage d'effectifs et de lits d'hospitalisation pour désengorger les urgences. Alors qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct devant le ministère de la Santé. Sait-on ce qu'il est ressorti de cette réunion, Tara ?
Alors la ministre vient de sortir et de nous parler. Les syndicats et le collectif interurgence ont été interrogés, eux, plutôt à leur arrivée et ils étaient à l'époque assez dubitatifs. Ils estimaient que la ministre allait surtout reprendre des propositions que son directeur adjoint de cabinet leur avait déjà fait, ce qui a d'ailleurs été le cas. Pour la CGT, c'est surtout une opération de communication ce matin, une grand-messe, vous l'avez dit, 50 personnes. Agnès Buzyn convoque les grévistes surtout pour installer une mission nationale dont les résultats seront attendus à l'automne, une mission piloté par un député, certes de formation urgentiste, et par un médecin, le patron du SAMU de Paris, dont les précédents rapports sont souvent restés lettre morte, affirment les syndicats. Alors du côté des propositions, effectivement Agnès Buzyn a réactivé 2 primes, comme l'avait annoncé son directeur adjoint. Elle réactive une première prime qui sera versée à l'ensemble des aides-soignants et des infirmières. 30 000 personnes sont concernées, vient de dire la ministre. 100 euros net par mois pour donc les infirmières, les aides-soignants et les personnels administratifs des urgences, pas pour les médecins. Cette prime n'était pas donnée jusque-là systématiquement. Deuxième prime, 100 euros brut cette fois. Une prime qui sera liée à une délégation de tâches que les infirmières et les aides-soignantes peuvent accepter dans le cadre de la nouvelle loi santé qui est en train d'être votée. Mais les syndicats affirment que cette prime impliquera une formation du personnel qui devront probablement passer un master, que ça va prendre du temps et que donc le montant n'est pas assez élevé. Troisième annonce, la ministre débloque une enveloppe, 15 millions d'euros pour faire face à la période estivale qui est toujours très tendue aux urgences. Ça représente environ 370 emplois, disait tout à l'heure la CGT. Ce n'est donc pas assez. À la PHP uniquement, les grévistes réclament pour l'instant la création de 700 postes. Enfin, donc, on s'attend à une déception plutôt du côté des syndicats qui étaient invités aujourd'hui. Le mouvement s'étend. Rien que hier, Roubaix, Reims, Aurillac, Dourdan, toutes ces urgences, là, se sont mises en grève.
Merci Tara Schlegel en direct depuis le ministère de la Santé. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Roxana Maraciné, à nous, ministre des Sports. Bonjour madame.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Première question madame la ministre, avant d'évoquer avec vous notamment le mondial des sports. Je parlais tout à l'heure de cet appel à la grève en Suisse aujourd'hui pour réclamer l'égalité salariale. Est-ce qu'une telle manifestation serait possible en France? Et puis, est-ce qu'au sein du gouvernement français, les femmes ministres sont payées au même niveau que leurs homologues masculins?
Oui, bien sûr, il y a l'égalité salariale au sein du gouvernement. Il y a maintenant, grâce à la loi sur la parité aussi dans le monde politique, beaucoup plus de femmes aussi à l'Assemblée nationale, et ça compte. Et moi, je défends cette idée dans le sport, parce que autant de femmes que d'hommes à la tête des instances dirigeantes, à la tête des associations sportives, ça peut apporter aussi, ça va apporter une vision nouvelle pour le sport, une vision peut-être plus axée sur la partie éducative, sur la partie plaisir, sur la partie santé, et un petit peu moins axée sur la partie compétition. Donc effectivement, moi j'aimerais qu'on se mobilise aussi en France, et on a avec cette Coupe du Monde féminine de football une belle vitrine pour parler de ça. On voit que l'équipe américaine, par exemple, est en plein procès avec le gouvernement américain pour avec la fédération de football américaine pour pouvoir accéder à la même rémunération que leurs homologues masculins, d'autant plus que là-bas le foot féminin est vraiment beaucoup plus en vue que le football masculin, et pourtant elles gagnent 4 fois moins que les hommes. Donc elles sont allées aujourd'hui devant les tribunaux et elles sont allées porter cette parole-là. Donc voilà, moi j'espère que ça va être inspirant aussi pour plus de femmes, pour d'autres pays aussi, et pourquoi pas chez nous, oui.
Question de Sophie Delvaux.
Donc mardi dernier, 600 supportrices ont chanté l'hymne des femmes avant le coup d'envoi du match Chili-Suède de la Coupe du Monde de foot féminine au stade de Rennes. Ce chant a été créé au printemps 71, devenu un emblème du mouvement de libération des femmes. Pour vous, cette Coupe du Monde organisée par la France doit-elle être avant tout une tribune pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ?
Elle doit aussi être ça. Bien sûr, c'est pas aux joueuses françaises ou aux entraîneurs, à l'entraîneur française de porter ça, puisqu'en fait, on a besoin aussi de la réussite de nos joueuses et de la réussite de cette équipe pour pouvoir en parler, nous, avec elle. C'est pour ça qu'il faut ménager, j'allais dire, la chèvre et le chou, puisqu'il faut, en même temps qu'on ait une équipe compétitive, qu'on puisse aller le plus loin possible dans la compétition, tout simplement pour arriver à montrer et à convaincre, comme on l'a déjà fait, que le football féminin à la télévision, ça attire des spectateurs, des téléspectateurs. On a une audience atteinte à la surprise de beaucoup de monde, y compris des chaînes de télévision qui se sont engagées avec audace dans cette aventure. Je pense notamment à TF1, une chaîne en clair qui a osé reprendre ces grands matchs de cette compétition, à Canal+, qui se sont investis aussi finalement à la surprise des autres sur cette grande compétition. Et il faut que nous, les instances publiques, mais aussi les femmes des autres sports collectifs, nous saisissions cette occasion pour parler plus de femmes et sport, et de femmes en général.
D'ici 2024, l'État doit investir 1 milliard d'euros pour les infrastructures des Jeux Olympiques, alors qu'il y a un contexte donc de maîtrise forte des dépenses budgétaires, de baisse d'impôts. Est-ce que vous avez obtenu des garanties pour que ce financement puisse avoir lieu, et surtout qu'il ne grignote pas sur l'argent pour le sport en France plus généralement?
Bien sûr, au moment du comité de candidature, tout le monde s'est engagé pour la réalisation de ces jeux et la livraison de ces infrastructures à temps. Il s'agit non pas d'infrastructures qui vont servir pour les jeux. Le village olympique qu'on prévoit de construire et qui va être financé effectivement par les pouvoirs publics va servir derrière pour des logements. Tout a été pensé en termes d'économie, mais d'utilité publique derrière aussi, puisqu'on est les seuls jeux à avoir déjà 95% des installations déjà construites aujourd'hui, seulement 5% sur lesquels on va devoir investir, et que ce soit des équipements sportifs comme par exemple la piscine qui aura lieu, qui va être construite à Saint-Denis, mais d'autres équipements sportifs aussi qui vont pas forcément servir pour la compétition mais comme lieu d'entraînement pour tous les sportifs qui vont venir au moment de cette compétition. Eh bien, ce sont des équipements, ils sont au nombre de 13 en Seine-Saint-Denis. Eh bien, c'est des équipements qui derrière vont pouvoir bénéficier à la population, et l'idée c'est vraiment ça, c'est de parler aussi d'héritage, pas uniquement en termes de dispositifs, de choses qu'on va laisser dans la société grâce au jeu, mais aussi en dur, en bâti, pour qu'on puisse aussi, que la population puisse profiter de ces jeux après aussi.
Deux hauts fonctionnaires de votre ministère, le ministère des Sports, ont déposé un recours devant le Conseil d'État, d'ailleurs plusieurs recours. Ils s'inquiètent de la création de l'agence nationale, donc qui doit notamment s'occuper des Jeux Olympiques. Plusieurs grands sportifs aussi se sont inquiétés notamment du rôle des 1600 cadres d'État qui sont chargés notamment de répartir les subventions. Pourquoi cette inquiétude? Qu'est-ce qui pose problème?
Alors dans mon ministère, on fait une réforme structurelle du modèle sportif français. On a créé l'Agence nationale du sport sport qui va regrouper en son sein les collectivités territoriales, le monde économique, les fédérations et l'État, pour qu'on discute ensemble du sujet sport, parce que on croit que c'est à cette condition qu'on va proposer une place différente pour le sport dans notre société, qu'on va pouvoir aussi associer et coordonner nos financements, puisqu'aujourd'hui le sport est une compétence dite générale pour les autres collectivités, donc elles n'ont pas obligation à s'occuper du sport, mais beaucoup d'entre elles le font déjà, et l'idée c'est de reconnaître leur rôle actuel, c'est de reconnaître aussi tout ce que les entreprises font déjà pour le sport, pour l'activité physique, pour leurs propres salariés parfois aussi, et d'agencer en fait tous ces dispositifs tous ensemble pour qu'on soit plus fort, plus riche dans ce domaine-là, où effectivement on sait que historiquement l'État n'a pas beaucoup investi sur le sport, a beaucoup moins investi sur le sport que sur la culture par exemple. Et on sait, et je suis la première à le dire aussi, que au sein des différents gouvernements et de celui-ci aussi, le sport pourra avoir une plus grande place, que ce soit dans la prise de parole, mais aussi dans les financements et dans les dispositifs qu'on y développe, parce que je crois que le sport, c'est une solution aussi pour beaucoup d'autres politiques publiques.
Merci Roxana Maricienne et à nous, ministre des Sports, je le rappelle, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Sophie Delpont. On termine avec un mot de météo. Le temps de cet après-midi sera marqué par des orages localement violents sur toute la moitié est du pays. Partout ailleurs, le ciel hésitera entre nuages, ondes et éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Antoine Marette pour le prochain journal de la rédaction.